Je vous mentionne ceux qui voudraient prier pour moi. Demain, je quitte pour 3 jours. Les habitués de l'Église ici connaissent cette habitude que j'ai de faire 2 fois par année une retraite de prière avec 2 de mes amis, François et Stéphane, qui sont dans l'œuvre aussi. Et donc, on part 3 jours pour prier, puis chercher la face de Dieu, se ressourcer en Dieu, évidemment, planifier des choses pour l'avenir, tout ça. Alors, si vous pouvez prier pour moi, ce serait très apprécié que Dieu vienne me parler à travers cette retraite-là. Je vous mentionne aussi deux dernières choses avant d'entrer dans le message. On a planifié une offrande d'action de grâce, parce que Dieu est bon et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle envers nous. Vous avez ça à l'intérieur de votre dépliant. Et on va vous en parler pendant un peu tout le mois d'octobre. C'est-à-dire, on lance là, puis après ça, gardez ça en arrière-pensée. On a fixé un objectif, d'accord? Un objectif de 8 000 $ pour l'offrande d'action de grâce. Et pour ceux qui sont pas habitués avec l'offrande d'action de grâce, on veut simplement reconnaître la fidélité de Dieu envers nous, ses bontés. Et donc, voici notre objectif, c'est 8 000 $. Et ça va être réparti en 3, donc proportionnellement, selon l'atteinte de l'objectif. On veut déjà avoir une provision. On a Alexandre Marquis, qui est pasteur d'évangélisation à l'Église ici, et il n'est pas encore à temps plein à la charge de l'Église. Et on est en train de l'amener à temps plein. Et donc, d'année en année, on ajoute une journée. On va avoir une provision de 3 000 $ pour prévoir pour l'année prochaine, puisque ça vient... On adapte des choses tranquillement avec le budget. Alors, si vous voyez un petit peu sur la map monde, Longueuil, Cuba, Honduras. Alors, l'idée pour le Honduras, c'est que John et Lise Francis, qui sont des missionnaires de longue date, bien connus dans l'Assemblée ici, sont appelés maintenant à avoir un ministère d'appui au Honduras, où ils vont faire beaucoup de formation pour les leaders. Et donc, c'est en Amérique latine, il y a beaucoup d'endroits où les églises ont explosé littéralement, l'Évangile s'est répandu très, très rapidement et des fois, les gens se retrouvent dans le ministère pastoral avec très peu de connaissances bibliques. Ils se sont juste convertis 1 an avant la congrégation qu'ils dirigent, d'accord? Alors, des fois, ça ressemble à ça, là. Et donc, John, qui est un enseignant depuis des années, depuis des décennies, va aller faire un ministère là et ils vont voir d'autres ministères connexes. Donc, on a à cœur de pouvoir les encourager dans ça. Et donc, on a un objectif de 3 000 $ et on veut prévoir aussi une provision pour ce que Dieu est en train de nous ouvrir comme opportunité à Cuba à travers des voyages de vacances de la famille de Grand Maison qui ont rencontré là-bas le pasteur Colonne. Et on va voir comment Dieu va diriger, d'accord? Mais comme mon frère me disait, un jour, des portes vont s'ouvrir larges comme ça à Cuba et ça s'en vient bientôt. On l'a vu chaque fois que des régimes semblables sont arrivés à leur terme, l'Évangile a prospéré dans ces pays-là. On l'a vu en ex-Union soviétique, avec la chute du mur de Berlin. À chaque fois, c'est ça. Puisqu'il y a une liberté, on découvre enfin Jésus-Christ. Et donc, on veut avoir une provision et on verra comment le Seigneur va diriger. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on met devant vous. Je devrais pas avoir à le rappeler, mais je veux quand même le mentionner. Si vous prenez le temps de regarder le dépliant, on a un retard quand même sérieux au niveau des offrandes. On veut garder une vision missionnaire, on veut pas s'empêcher d'aller de l'avant pour le royaume, mais ce serait vraiment important que vous preniez pas à cœur de donner pour ça en donnant moins pour les fonds généraux. Vous comprenez? Il faut continuer à couvrir, à assumer toutes nos responsabilités et les engagements qu'on a pris envers des missionnaires dans notre budget. Alors, c'est vraiment un surplus que Dieu place sur votre cœur de donner pour l'avancement du royaume. Une dernière annonce que je veux mentionner la semaine prochaine, et ça c'est une invitation spéciale. La semaine prochaine, on va rester dans la série Dieu le Père, mais c'est quelqu'un d'autre qui va apporter le message de la parole. C'est notre frère Joël Lapierre. Et Dieu est absolument extraordinaire. Lorsqu'on a mis Joël à l'agenda, lorsqu'on a cédulé Joël, c'était en vue de ma retraite de prière, tout ça, mais le sujet avait pas été décidé, tout ça. Et puis, depuis le début de la série, on est en train de réfléchir, puis on dit que ça serait vraiment génial d'avoir un témoignage de personnes qui ont vécu l'adoption, qui ont adopté, pour nous parler du cœur d'un père, du cœur des parents, pour des enfants qui ont été adoptés, pour nous parler de cette réalité-là. Des parents qui adoptent se font demander « Est-ce que vous l'aimez autant que vos autres enfants? » et des questions semblables. Et Dieu, dans sa souveraineté, a permis qu'on ait cédulé Joël. Et vraiment, pour moi, c'est un beau clin d'œil du Seigneur parce que, alors même qu'on est en train de se casser la tête, j'avais même plus à l'esprit que la famille Lapierre a adopté il y a environ 2 ans. Le petit Mathias qui est juste là au centre. Et donc, la semaine prochaine, Joël et Julie, J'ai partagé à Joël ce qu'on est en train de faire avec la série. Joël va apporter le message de la parole, mais ils vont aussi témoigner de leur expérience, de leur relation, de leur amour pour cet enfant, afin de nous aider, nous, à entrer un peu plus dans cette relation qu'on veut avoir avec notre Père Céleste, qui nous assure tout son amour, malgré le fait qu'on est des enfants d'adoption. Et ce qu'il y a de particulier dans leur histoire à eux, c'est que lorsqu'ils ont adopté Mathias s'annonçait comme un enfant en pleine santé, mais il s'est avéré par la suite qu'il y avait des problèmes d'épilepsie très, très sévères qui occasionnent un retard de développement. Et là, vous comprenez tout ce qui peut se passer, n'est-ce pas? Et j'ai vraiment eu une belle conversation avec Joël sur comment ils vivent ça. Et ils comprenaient le sens, et ils comprenaient l'idée que bien des chrétiens avancent dans la vie comme si on était des orphelins, comme si on n'avait pas de père. Alors, je vous le mentionne pour vous encourager à inviter des amis. D'accord? Peut-être que vous connaissez des chrétiens qui sont tellement comme des orphelins qu'ils ne vont même plus dans une assemblée. Et non seulement ils se sentent loin de Dieu, mais ils se sentent loin de la famille de Dieu. Peut-être que vous avez des gens dans votre famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais vous dites ça, ce serait une belle porte d'entrée pour l'Évangile dans leur cœur. Joël et Julie vont nous partager ça dimanche prochain. Je pense que ça va être vraiment un beau moment. Priez pour eux, s'il vous plaît, en préparation. C'est bon? Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 1. On continue notre série. G.I. Packer, je le répète, j'espère que ça va rentrer. G.I. Packer a dit, le nom chrétien de Dieu, c'est Père, Papa. Parce que Jésus-Christ est venu nous révéler un aspect de la personne de Dieu tel qu'elle n'avait été jamais révélée à travers l'histoire des Saintes Écritures, à travers la révélation de Dieu. Et donc, Jésus est venu nous révéler cette paternité de Dieu envers nous. Maintenant, tout ça se fait à travers l'adoption. Et ce matin, ce que je veux faire avec vous, c'est parler un peu plus du processus d'adoption. On va voir ensemble quel est le processus par lequel nous avons été adoptés et certains d'entre vous peuvent être adoptés dans la famille de Dieu. On va aller dans un mot de prière avant. Père éternel, quel réconfort pour moi de faire cette série et chaque fois que je me prépare à monter sur l'estrade ici en avant, chaque fois que j'étudie ces passages, Seigneur, mon cœur est béni, mon cœur est rassuré parce que je sais que mon Père est avec moi, Seigneur. Chaque fois que j'ai des doutes sur moi-même, chaque fois que j'ai des doutes sur mes capacités, chaque fois que j'ai des doutes sur le fait que ce soit ma place ou non d'être ici, Seigneur, je le fais pour toi et sous ton regard, Papa. Sous ta gouverne, sous ta direction, sous ta protection, Seigneur. Chaque fois que j'ai des doutes sur qui je suis, sur mon histoire et sur l'amour que tu peux avoir envers moi, à travers cette série, je suis rappelé, Père. Je suis rappelé de ton amour, de ton affection pour moi, et c'est une grâce pour moi, Père. Père, j'ai entrepris cette série en ayant sur mon cœur tous ces chrétiens qui me parlent de leur communion avec toi, qui me parlent de leur marche chrétienne, et j'ai l'impression d'entendre des orphelins parler. Des enfants qui ne savent pas où regarder, des enfants qui sont insécures, des enfants qui craignent pour l'avenir, des enfants qui doutent de tes bontés, Père. Alors, je veux te demander, dans ta grâce, par l'œuvre de ton esprit, Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin, Père. Cet esprit d'adoption que tu as placé en nous, viens, Seigneur, parler à nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à entendre cette voix. Aide-nous à se savoir entièrement enfant de Dieu, Seigneur. Je te prie, Père, pour les gens au milieu de nous qui ne seraient pas encore de la famille, qui fréquentent l'Église, qui écoutent les messages, qui écoutent tout ça et qui dans leur cœur ont encore une petite distance avec toi, Seigneur. Toi, tu les connais et ils se connaissent, Seigneur. Je te prie, Père, de les convaincre de ton amour, de les convaincre de ta grâce, Seigneur, et d'ouvrir leur cœur afin qu'ils puissent être ouverts à recevoir Jésus-Christ ce matin, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus que je t'en prie. Amen. Amen. Vous savez, un processus d'adoption, c'est pas pour l'avoir vécu que j'en parle, mais pour avoir lu là-dessus, pour avoir échangé avec des gens, c'est un long processus. C'est généralement un très, très long processus, le processus d'adoption. Ce ne sont pas des choses que tu improvises du jour au lendemain puis tu décides comme ça que tu vas adopter. C'est tu réfléchis à ça, tu réfléchis aux implications, tu réfléchis aux enjeux. Et puis, une fois que le couple a pris une décision, une fois que vraiment la décision a été bien mûrie, on commence à chercher, on commence à regarder, à lire, on cherche une agence qui serait bien, hein, parce qu'on doit travailler généralement avec une agence pour pouvoir être dirigé dans tout ça. Et on entre, on continue dans ce processus-là. L'adoption est pas faite. C'est même pas dit que ça va se faire. Mais on est dans un processus et donc on va s'inscrire auprès d'une agence. Puis là, on entre et le processus se continue. Des fois, souvent, ça prend des années. C'est un travail de plusieurs années. Et à travers ce long processus-là, on avance progressivement. Et puis un jour vient où il y a un appel. Il y a un appel et on nous dit, bon, OK, on a un enfant que vous pourriez adopter. Et si c'est à l'étranger, c'est des voyages, un voyage, deux voyages, pour aller voir cet enfant, rencontrer cet enfant, aller sur place. L'adoption n'est pas faite encore. Parce qu'il y a ceci de particulier avec l'adoption, c'est que le parent, en voyant l'enfant, pourrait encore décider de se retirer. C'est quand même différent, n'est-ce pas, d'avoir des enfants naturellement, ou une fois que le processus est parti, c'est entre les mains de Dieu. Mais au moment où le parent rencontre l'enfant, ou les parents rencontrent l'enfant, ce serait encore possible pour eux de se retirer. Et donc, dans un certain sens, il y a un élément de choix qui est présent là. Lorsque les Écritures nous disent que Dieu nous a adoptés, bien, vous savez, avec Dieu, c'est la démesure comparativement à nous. Quand on parle de long processus, avec Dieu, on parle de très, très long processus pour l'adoption. Avec Dieu, tout est toujours hors de proportion. C'est pas à notre échelle à nous. Dieu ne compte pas le temps en jours et en années. Dieu compte le temps en éternité. Vous comprenez? C'est pas une journée, deux journées. C'est une éternité, deux éternités. Dieu est hors du temps. Et donc, si on dit que le processus d'adoption pour nous, pour des êtres humains, est long, dans le cas de Dieu, je peux vous dire que c'est vraiment long comme processus. Et Dieu a eu le temps, si je peux dire, de mûrir cette décision-là très sérieusement. C'est ce que les Écritures nous disent. En fait, la parole de Dieu nous dit que Dieu a mûri cette décision-là avant même la création du monde. Avant que la terre n'existe, quel que soit l'âge que vous pouvez lui donner, avant même que la terre n'existe, Dieu avait déjà décidé qu'il serait un père adoptif. On va lire le passage ensemble parce que le texte va encore beaucoup plus loin que ça. Je vous dirais beaucoup plus touchant que ça. Tournez avec moi si vous n'y êtes pas déjà dans Éphésiens chapitre 1. Et vous allez avoir le passage qui est affiché ici à l'avant aussi. Mais je vous invite à tourner si vous avez vos Bibles. Éphésiens chapitre 1, versets 3, 4, 5. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et là, Paul va commencer à parler de ces bénédictions-là. D'accord? « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Verset 5, « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » L'apôtre Paul nous dit que le processus d'adoption pour chacun d'entre vous qui êtes en Jésus-Christ, c'est-à-dire que vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, le processus d'adoption pour chacun d'entre vous a commencé avant la fondation du monde. Paul dit au verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Tout à l'heure, j'ai mentionné que dans un processus d'adoption comme nous, on le vit sur la terre, dans un certain sens, et je sais que c'est pas tout à fait vrai, mais dans un certain sens, il revient aux parents de choisir. D'accord? Même s'ils n'ont pas le choix entre plein d'enfants, il revient aux parents de choisir ou non s'ils vont accepter cet enfant. Et à la dernière minute, ils pourraient décider de se retirer. Leur choix est pas très éclairé. Leur choix est éclairé par les informations qu'ils ont sur l'enfant. Leur choix est éclairé par un pas de foi, vraiment. C'est extrêmement différent dans le cas de Dieu. Parce que ce que Paul nous dit ici, c'est que Dieu avait le choix aussi, mais qu'avant même ma conception, avant même ma naissance, avant même la création du monde, Dieu m'a choisi. Pour certains d'entre vous, on pourrait se demander s'il avait réfléchi à son affaire avant. Peut-être pour moi aussi. Mais voyez-vous, les Écritures nous disent que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Et je sais que certains d'entre vous, vous pourriez déjà décrocher du message ici parce que vous entrez dans des grands débats théologiques à savoir comment est-ce que Dieu nous a choisis. Bien, le texte ici ne dit pas que c'est nous qui avons choisi Dieu. Ce n'est pas nous qui avons élu Dieu. C'est Dieu qui nous a élus. Alors, jouez avec le texte comme vous voulez. Tournez-le dans tous les sens comme vous voudrez. Dieu vous a choisis. Et Dieu vous a choisi en vous connaissant, puisqu'il vous a choisi. Si avant la fondation du monde, il vous a choisi avant que vous existiez, c'est qu'avant la fondation du monde, il connaissait non seulement votre naissance, mais votre mort, vos bons coups et tous vos mauvais coups. Et Dieu vous a choisi. Il y a quelque chose de riche ici, là. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici, là. Vous comprenez? S'il m'avait consulté, peut-être que j'aurais eu une autre opinion pour certains d'entre vous. Peut-être que si vous avez consulté, vous auriez dit Yannick, pas sûr. Mais Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi en sachant qui vous seriez avant et après votre conversion. Dieu vous a choisi en sachant où vous seriez rendu aujourd'hui dans votre marche chrétienne. Laissez-moi le dire un petit peu brusquement. Ce que je comprends dans ce texte-là, c'est qu'il ne nous a pas choisis en vertu de nos qualités. Parce que moi, j'aurais fait d'autres choix. Et lorsque je me regarde dans le miroir, régulièrement, je suis humilié dans mon cœur et dans mon âme. Et lorsque je célèbre le repas du Seigneur, je suis humilié intérieurement parce que je dis, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi m'as-tu choisi, Seigneur? Le texte nous donne la réponse. Paul nous donne la réponse. Au verset 5, il nous dit, « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. » Voyez-vous, Dieu ne nous a pas choisis sur la base de ce que nous serions comme personnes, de ce que nous réussirions à faire ou à ne pas faire, des péchés, des succès, des échecs qu'il y aurait dans notre vie. Dieu nous a choisis sur la base de son amour. C'est en vertu de son amour à lui. Rappelez-vous, au début de la série, j'ai dit, en fait, la semaine dernière, j'ai dit, Dieu était dans un contexte d'une famille parfaitement harmonieuse, qui n'avait aucun vide à combler. Et en tout cas, s'il y avait eu un vide à combler, je pense qu'il aurait pu le combler mieux que ça. Mais s'il y a quelque chose avec cette famille parfaite qu'on trouve dans la personne de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans ces trois personnes en Dieu, c'est qu'on trouve un trop-plein d'amour. Un trop-plein de grâce. Et c'est en vertu de cet amour et de cette grâce que Dieu vous a choisi. Non pas en vertu de ce que vous feriez. Tournez avec moi un tout petit peu plus loin dans Éphésiens 2. Juste une page. En fait, les Écritures nous disent qu'avant qu'on devienne enfant de Dieu, nous étions fils et filles de la rébellion. Alors, je dirais même qu'intentionnellement, Dieu a choisi d'adopter, comme dirait Bruno, des sales cas. Éphésiens 2, 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Dieu est venu chercher, Dieu a choisi d'adopter une gang de rebelles, une gang de pécheurs qui sont conduits, qui sont drivés uniquement par leur passion. Et quand je parle de passion, c'est dans le sens de vice. Et Dieu, regardant toutes ces choses, avait un trop plein d'amour. Et il a décidé de nous adopter. C'était le plan de Dieu. Revenez avec moi au chapitre 1. Simplement revenez sur le verset 6, Éphésiens 1, 6. Dans quel but est-ce que Dieu a fait ça? Dans le but de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Dieu a fait cela afin qu'à travers son amour et sa grâce, le monde dise, « Mais veux-tu me dire pourquoi il l'a choisi, celui-là? » Voyez-vous, c'est ça l'image, hein? Dieu est en train de marcher main dans la main avec vous. Et à tout moment, il y a quelqu'un qui croise, qui vous croise en train de marcher avec votre Père céleste. Et voyez, il y a des regards d'interrogation dans les yeux du passant qui le regarde, puis qui vous regarde, puis qui dit, pour moi, il ne savait pas ce qu'il prenait, celui-là. Et Dieu a fait ça à dessein, volontairement, parce qu'il voulait que la gloire de sa grâce éclate. Que les gens, que les anges dans l'éternité célèbrent et disent « Mais que tu es bon! » Parce que tu es allé prendre des poqués! Parce que tu es allé prendre des rebelles! Mais que tu es bon! Que tu es merveilleux d'avoir pris ces enfants-là hypothéqués comme ça pour faire d'eux tes enfants chéris, bénis et faire entrer dans ta famille. Comme on va le voir bientôt, faire d'eux des héritiers. Vraiment adoptés. Paul dit dans 1 Corinthiens, je vais vous lire le passage, je pense qu'il va être affiché, 1 Corinthiens 1, versets 25 à 31. Paul dit que Dieu a fait ça volontairement. D'accord? Écoutez bien la description de l'Église, là, c'est de nous dont Paul est en train de parler ici. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, n'est-ce pas? Avez été appelés, choisis, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il dit, vous êtes une gang de tout croche. C'est pas tellement impressionnant à voir une église, parce que je veux dire, je vous regarde, puis moi, je vous choisirais pas sur mon équipe, tu sais. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. C'est de nous qu'il parle. Sympathique, hein? Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors quand tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « je ne vaux pas grand-chose », Paul aurait dit « Amen ». Non, mais je fais dur. Paul aurait dit, c'est vrai. Puis là, tu pars ta journée, puis tu dis, ouais, mais il n'y a rien à faire avec ma journée. Hein? Ça, c'est faux, par exemple. Ça, c'est faux parce que tu as été choisi. Tu as été choisi par Dieu. Ah, c'est vrai que tu as de l'air fou. Je suis d'accord avec toi. Mais il t'a adopté. Il t'a choisi. Tu fais maintenant partie de la famille de Dieu. Il t'a pris dans sa famille. Puis vous regardez à votre histoire, vous regardez à votre passé, puis qu'on a de la difficulté à laisser ça en arrière. Ça nous poursuit, on veut changer, mais boy, ça nous colle après trop longtemps, cette affaire-là. Dieu se glorifie de choisir les pires cas puis dire avec vous, je vais me glorifier et je vais montrer combien j'aime, combien je suis gracieux. Alors voyez-vous, dans mes pires moments où je suis écrasé par le poids de mes fautes, de mes stupidités, de mes péchés, j'ai la possibilité de me tourner vers mon Père, de refuser, de renoncer tous les mensonges qui voudraient me dire que parce que je suis comme ça, mon Père ne veut plus rien savoir de moi. Vous pourrez toujours vous dire, et vous pourrez toujours lui dire, « Père, quand tu m'as choisi, tu savais dans quoi tu t'embarquais. Tu as fait un choix extrêmement éclairé, Seigneur. Et je suis tellement reconnaissant de ça. Ma sécurité à l'égard de ton amour ne repose pas dans le fait que j'étais un winner, j'étais un gagnant, puis tu allais faire quelque chose avec moi. Ma sécurité repose dans le fait que tu m'as choisi. Et c'est vrai qu'il a pris du monde poqué. Et l'histoire de l'Église, voyez-vous, l'histoire de l'Église confirme ça siècle après siècle. Quand vous regardez une assemblée, généralement, vous avez une concentration de poqués plus élevée que dans la société. C'est sûr. C'est sûr. Les gens qui réussissent à tenir les assiettes en place, le château de cartes debout, qui ont de l'air bien, n'ont pas le sentiment qu'ils ont besoin de Dieu. Des fois, il faut que Dieu retire une carte, deux cartes, trois cartes. Ça commence à trembler assez pour que ton cœur s'ouvre et tu dis « j'ai peut-être besoin du Seigneur ». Mais quand tu arrives là, c'est parce que tu es poqué. On s'entend-tu? Toute l'histoire de l'Église le confirme. Ça a toujours été comme ça. Ah oui, on sait bien, c'est des béquilles. Ah oui, Dieu a décidé de prendre les poquets parce qu'il vous laisse glorifier. Vous qui êtes au-dessus de ça, vous qui n'avez pas besoin de Dieu, vous n'avez pas besoin de Dieu. On arrangera ça dans l'éternité de l'autre bord. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et si vous êtes dans l'Église puis vous dites, hey, boy, que c'est magané cette gang-là. Hey, c'était le plan de Dieu. Et il a fait de nous sa famille. Et il y a une grâce extraordinaire à puiser là. À revenir chaque matin en disant, Dieu a choisi les choses viles de ce monde. Pas très impressionnantes. Pas très impressionnantes. Pour faire de nous ses enfants. Voyez-vous, le processus de votre adoption a commencé avant votre naissance, avant la fondation du monde. Ça a été mûrement réfléchi. Ça a été préparé. Et vous avez été choisi. Et il n'y a rien de ce que vous avez pu faire et de ce que vous ferez qui pourrait amener Dieu à regretter son choix. Il les connaissait tous. À nous, comme parents, ça arrive qu'on rentre dans la réalité puis on dit, on n'a jamais été préparé à être parent. Dieu, ça fait depuis l'éternité qu'il se prépare à être parent. Puis il connaît toutes vos gaffes. Celles que vous avez faites hier, celles que vous allez faire aujourd'hui, puis celles que vous allez faire demain. Il les connaît toutes, sont déjà toutes écrites. Il fait juste des checks quand vous les faites. Il dit, ah, ça devait arriver. OK, j'espère qu'il va se repentir. Il connaît même la suite de l'histoire. Dieu ne vous a pas choisi pour vous adopter en vertu de ce que vous feriez. Il vous a choisi en vertu de son amour. Et plus vous êtes poqué, plus il va être glorifié, parce qu'il va vous transformer à son image. Amen. Laissez ces choses-là entrer dans votre cœur, pénétrer dans votre cœur. 1 Jean 3:1. Et là, je veux juste souligner un peu ce que Jean-Sébastien a mentionné tout à l'heure. 1 Jean 3:1, l'apôtre Jean dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Dieu aurait pu faire beaucoup de choses extraordinaires envers nous, pour nous, sans nous adopter. Et je vais prendre l'image d'un enfant qui serait dans une situation, dans un foyer abusif, où il serait souffrant. Et un intervenant social va venir là pour le sortir de cette situation d'abus et de violence. Au moment où l'intervenant social vient et le retire, le protège de ce foyer destructeur, cet intervenant-là a accordé une grâce extraordinaire à cet enfant. Il vient de le libérer, il vient de lui offrir une vie nouvelle. Et il va commencer à se promener de famille d'accueil en famille d'accueil en famille d'accueil en famille d'accueil en famille d'accueil. Ou pire, en centre d'accueil. Et pourtant, cet enfant-là était libéré d'une situation où il est en train de se faire détruire. Il a été libéré. Voyez-vous, Dieu aurait pu venir nous libérer du péché, nous donner une vie nouvelle, sans pour autant nous adopter. Dieu aurait pu nous pardonner tous nos péchés, nous ramener dans un statut un peu comme les anges, parce que c'est très rare dans les Écritures qu'il nous ait dit que les anges font partie de la famille de Dieu. On a un texte seulement qui parle des fils de Dieu, mais toute cette notion de paternité, de co-héritier de Christ, ça ne semble pas être un des privilèges des anges. Alors Dieu aurait pu tout simplement me donner une vie nouvelle. Je suis mort spirituellement, il me donne un cœur nouveau. Il me pardonne toutes mes fautes, il me pardonne tous mes péchés, je suis vivant spirituellement, je vais vivre pour l'éternité et je vais joindre les légions d'anges qui vont adorer Dieu. Mais Dieu dit non, je ne m'arrêterai pas là. Je ne vais pas te laisser sans famille. Tu n'es pas une créature comme les autres. Et je vais faire de toi mon enfant chéri. L'intervenant social n'est pas simplement allé libérer l'enfant de là, mais il l'a adopté et l'a intégré dans sa propre famille. Quel privilège extraordinaire! Je n'ai pas seulement été pardonné, justifié, purifié de mes fautes. Je n'ai pas seulement reçu une vie nouvelle en moi par l'Esprit de Dieu, un cœur nouveau. Dieu a dit, j'aime un être plus que tout autre dans l'univers, c'est mon fils. J'ai mis toute mon affection en lui et je vais faire de toi son frère et sa sœur. Mais plusieurs d'entre vous, vous avancez dans la vie chrétienne comme si Dieu vous préparait l'éternité et si vous étiez sans famille sur la terre. Vous avancez à tous les jours comme si vous avez la certitude que l'espérance que tout est beau de l'autre côté, ça va bien aller. Puis Dieu, de temps en temps, pense à moi. Mais je n'ai pas été adopté dans la famille de Dieu. Je n'ai pas un bon père qui porte attention sur moi. Et plusieurs d'entre vous, c'est comme ça que vous vivez la vie chrétienne. Voyez-vous cet aspect immense qui vous manque? C'est énorme. L'intervenant social ne vous a pas seulement délivré de la situation où vous étiez. Il vous a adopté dans la famille. C'est ce qu'il a fait. Et je dois entrer dans cette nouvelle sécurité-là. Je dois entrer dans cette nouvelle communion avec mon Père. Parce que j'ai ce privilège d'être fait enfant de Dieu. Je ne suis plus orphelin. Je n'ai plus à m'appuyer tous les jours uniquement sur moi-même. J'ai un Père qui veille sur moi. Et j'ai la possibilité, comme un enfant, chaque fois que je suis insécure, de dire, mais papa, je ne sais pas comment je vais y arriver. Je ne sais pas où je m'en vais. Je suis inquiet pour demain. Et j'ai la possibilité de plonger les regards dans les Écritures pour entendre mon Père me dire, Yannick, je m'en occupe. Je suis là, ne sois pas inquiet. Tu es trop petit encore pour t'inquiéter. Te préoccuper de ces choses-là. Moi, ça fait longtemps que je m'occupe de ça. Tu fais partie de ma famille. Je ne permettrai pas qu'on fasse du mal à mes enfants. Je suis un bon père de famille. Ce qui est particulier avec la famille de Dieu, c'est le processus par lequel on entre dans cette famille. Dieu nous ouvre son cœur pour nous faire entrer dans sa famille et nous entrons dans sa famille en ouvrant notre cœur à son Fils. D'accord? On entre en communion avec Dieu en ouvrant notre cœur à notre tour à son Fils. Tournez avec moi dans Jean, l'Évangile de Jean. Je sais qu'on se promène ce matin. Jean 1. Et là, je vais avoir l'opportunité de placer la personne de Jésus-Christ dans le contexte de cette série-là. D'accord? Jean 1, je vais lire à partir du verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. L'apôtre Jean est en train de parler de Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, c'est-à-dire qu'il est venu pour annoncer la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. La lumière dont il est question ici, c'est la lumière du monde. C'est la lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc, Christ était là avant, quand le projet d'adoption a été préparé. Christ était là, à la fondation du monde. Le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, puisque c'est elle qui nous a créés. Et les siens ne l'ont point reçue. Leur cœur était fermé. Leur cœur était fermé à cet amour qui nous était offert. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu veut nous accueillir dans sa famille. Une famille extraordinaire où il y a trop d'amour et ça déborde et ça jaillit à l'extérieur. Et il ouvre son cœur pour nous accueillir dans sa famille, qui que nous soyons, dans quelque état que nous soyons. Mais voyez-vous, non seulement il vient nous sauver, il vient pardonner nos péchés, il veut entrer dans une communion avec nous, dans une relation avec nous. Et si Dieu vous invite à entrer dans sa famille, il nous dit que c'est en aimant ce qu'il a de plus précieux dans l'univers, son Fils, que vous allez entrer dans la famille. C'est en recevant, en accueillant, en ouvrant votre cœur à Jésus-Christ, la lumière du monde, que vous allez pouvoir entrer dans cette nouvelle famille, dans cette communion. Vous comprendrez pourquoi dans cette assemblée, on insiste pour dire qu'il n'y a pas d'autre chemin pour aller à Dieu. Parce que Dieu a un Fils unique, Jésus-Christ. Ce Fils est venu nous révéler le Père comme personne ne l'a jamais fait à travers toute l'histoire de l'humanité. Et tous ceux qui se disent prophètes, tous ceux qui nous parlent de Dieu, n'ont jamais pu nous révéler Dieu avec cette vérité comme Christ l'a fait. Depuis le début de la série, je m'adresse à vous en parlant de notre Père céleste. Et en faisant ça, je suis comme en train de prendre pour acquis que vous êtes tous des chrétiens, que vous avez tous décidé de croire en Jésus-Christ. Mais c'est un peu comme ça que Jésus s'adressait aux foules, hein? Jésus disait, « Mon Père, votre Père, priez votre Père céleste en priant comme ça. » Et pour toi, pourtant, on voit plus loin que chacun doit prendre une décision. Si vous voulez entrer dans cette famille, si par la grâce de Dieu, j'ai réussi à vous présenter un aspect de la personne de Dieu que vous n'aviez pas réalisé avant, que vous n'aviez pas vraiment découvert, et si vous enviez tous ceux qui sont enfants de Dieu, voici comment se conclut le processus d'adoption, comment se scelle le processus d'adoption. C'est lorsque vous ouvrez votre cœur à la personne de Jésus-Christ, que vous reconnaissez en lui celui qui est venu rendre possible votre adoption. Et là, on pourrait s'étendre sur son sacrifice, sur ce qu'il a accompli en mourant sur cette croix, sur le pardon des péchés qui est possible par son sacrifice. Mais tout ceci est rendu possible par votre cœur qui s'ouvre à une personne. Devenir chrétien, ce n'est pas croire des choses. Devenir chrétien, ce n'est pas croire un certain nombre dénoncer. Devenir chrétien, ce n'est pas chanter des cantiques. Devenir chrétien, c'est ouvrir son cœur à une personne, Jésus-Christ, et dire « Je crois en toi et je veux te recevoir dans ma vie, dans mon âme, dans mon cœur. Parce que tu es tout pour moi, tu es le Fils de Dieu et tu es celui qui rend possible mon adoption pour que j'entre dans la famille de Dieu. » J'espère que vous avez pris cette décision-là. J'espère que vous avez ouvert votre cœur à Jésus-Christ. Le processus d'adoption ne s'arrête pas là. Le processus d'adoption passe à une autre étape qui est vraiment extraordinaire. Dans Jean 14, je vais vous lire rapidement. Dans Jean 14, verset 15 et suivant. Parce que Jésus n'est pas là. Il n'est pas là physiquement, en tout cas. Je n'ai pas eu l'opportunité de lui serrer la main encore. Jean 14, verset 15. Jésus dit ceci, « Sachant qu'il allait quitter, sachant qu'une fois son sacrifice accompli, sa résurrection faite, il allait quitter pour retourner auprès du Père. » Voici ce qu'il a dit. Jean 14, 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Parce que lui-même est un consolateur, mais il nous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Regardez au verset 25 et 26. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, parce qu'il savait qu'il allait quitter. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Tout ce langage que les chrétiens ont, qui a de l'air un langage un petit peu comme enfantin, croire en Jésus, recevoir Jésus, est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Ce langage-là nous vient de l'évangile de Jean. Voyez-vous, Christ est venu vers les hommes, mais les hommes ont fermé leur cœur. Ils ont dit « Non, c'est trop beau, c'est trop simple, c'est trop facile, ça ne m'intéresse pas. » Mais à ceux qui ont ouvert leur cœur pour accueillir Jésus-Christ, à ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accueilli lorsqu'il est venu, à ceux qui placent leur foi en lui pour l'accueillir, Jésus nous dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Et bien qu'il ne soit pas ici présent physiquement, il est ici au milieu de nous par son esprit. Et non seulement lui est là, mais son Père est là. Je sais que c'est des choses mystérieuses. Je sais que ça prend de la foi. Mais quelle grâce quand Dieu ouvre les yeux de ton cœur pour te donner cette foi-là. Quelle bénédiction. Et l'Esprit Saint vient en nous. Par l'Esprit Saint, le Père et le Fils viennent faire leur demeure en nous. Et ainsi, je suis scellé. Le contrat d'adoption est scellé à ce moment-là. Il n'y a pas de retour en arrière. Je suis scellé par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Je suis à présent un enfant de Dieu. Je termine avec un dernier passage. Romains 8, 14 à 16. Romains 8, 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Frères et sœurs, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on s'assemble dimanche matin pour louer Dieu, pour adorer Dieu, vous savez dans votre cœur, vous savez que Jésus-Christ est le centre de l'histoire de l'humanité. Vous savez que ce n'est pas que des contes pour enfants, que cela s'est passé dans l'histoire et que Jésus nous a ouvert les portes du ciel. Vous savez dans votre cœur que sans le sacrifice de Jésus, vous seriez encore sous la colère de Dieu parce que vous êtes comme le reste des hommes sans Jésus. Vous êtes des fils et des filles de la rébellion. Vous êtes rebelles à Dieu, sous le jugement de Dieu, assouvissant vos passions et vos vices. Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous avez reçu l'Esprit de Dieu en vous. Et cet Esprit-là veut vous faire entendre que vous êtes fils et filles de Dieu. Et lorsque vous ouvrez la parole, vous n'ouvrez pas la Bible comme les témoins de Jéhovah peuvent le faire pour faire des études bibliques ou n'importe qui va le faire. Vous êtes en train d'ouvrir la lettre que votre Père vous a écrite pour recevoir des encouragements, des bénédictions, des instructions pour la journée, pour apprendre comment avancer et marcher dans la vie. Lorsque vous venez adorer ici le dimanche matin, vous ne venez pas chanter des chants pour qu'on se craigne toute la gang ensemble et qu'on se dise « OK, on t'offre une autre semaine ». On est en train de fêter notre Père, notre frère Jésus. On est en train de lui chanter des louanges. On est en train de lui dire quelle grâce on a reçue de pouvoir saisir l'Évangile et recevoir l'Évangile. Et lorsque vous vous rassemblez ensemble, vous n'êtes pas en train de vous rassembler avec une gang de personnes qui font des études bibliques. C'est la famille que vous recevez. C'est les frères et sœurs. C'est des tout croches, pareil comme vous, qui ont été adoptés dans la famille de Dieu, qui sont vraiment dans la famille de Dieu, qui sont vraiment chéris de Dieu. Et lorsqu'il y a des chicanes dans la famille de Dieu, le Père est attristé. Par la grâce de Dieu, nous sommes enfants de Dieu et nous ne sommes plus orphelins. Je prie intensément pour qu'après cette série, plusieurs d'entre vous arrêtiez de marcher en orphelin et que vous marchiez comme des gens qui ont un Père céleste, qui a mûri longuement la décision de vous adopter, qui a donné son Fils pour que vous puissiez être adoptés, qui a ouvert votre cœur, parce que c'est Dieu qui l'a accompli, et qui a placé en vous son Esprit, et que vous avanciez jour après jour avec une assurance et une paix, de savoir que votre Père vous aime tendrement. Qui que vous soyez, où que vous soyez rendu, quel que soit l'état de votre vie. On va prier ensemble. Père, quelle grâce! Quelle grâce, Père, d'entrer dans ta présence en sachant que moi, tu m'aimes, Seigneur. Combien de fois, Père, je commence la journée ou je termine la journée déçu de moi-même, frustré, Seigneur. Parce que je me sens indigne de porter le nom de Jésus-Christ. Combien de fois, Seigneur, je vis et j'avance le cœur chargé d'inquiétude. Oh, Seigneur. Seigneur, je te confesse, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin de réaliser davantage tout ce processus par lequel tu es passé pour faire de moi ton enfant, Seigneur. J'ai besoin d'entendre davantage ton esprit me parler, Seigneur. Confirmer dans mon cœur et dans mon âme que j'ai été choisi, je suis un enfant de Dieu. Seigneur, nous avons besoin de grandir dans cette vérité, afin de marcher avec assurance, afin de marcher avec confiance, afin de marcher avec force, sans crainte, Seigneur, pour porter dignement le nom de notre Père et savoir que malgré toutes nos gaffes, malgré toutes nos niaiseries, Papa nous attend toujours à la maison. Sois béni, Seigneur. Je t'aime. Amen.